Vous écoutez RFI, il est 23h30 ici à Paris, 22h30 en temps universel.
Sylvie Berruet.
Bonsoir à tous. Dans l'est de la République du Congo, l'armée congolaise annonce avoir repris plusieurs localités dans le Massissi. Le Mozambique, Maputo, ville morte ce lundi au premier des trois jours de grève lancés par l'opposition de Venancio Mondlane. Au Niger, l'émotion est vive à Agadez où réside depuis plus de 30 ans l'Autrichienne Eva Gretzmacher, enlevée samedi soir chez elle par des hommes non identifiés. Leur rap n'a toujours pas été revendiqué. Le bras de fer diplomatique entre Alger et Paris, la décision de l'Algérie de renvoyer un influenceur expulsé par la France a mis le feu aux poudres et provoque de très vives réactions dans la classe politique française. Ce sera le dossier d'Afrique Soir avec David Baché. Les sports, l'Open d'Australie de tennis à Melbourne, Ons Jabeur, la Tunisienne, entre en lice ce soir. Elle revient de loin après une année marquée par des blessures. Et puis le football et le nouveau sélectionneur des Super Eagles, le franco-malien Eric Schell, dévoile ses ambitions d'écrocher la qualification du Nigeria pour la prochaine Coupe du Monde. Dans l'est de la RDC, les combats font rage entre l'armée congolaise appuyée par les groupes armés locaux et les rebelles du M23 soutenus, eux, par le Rwanda. Ce lundi, les autorités militaires congolaises annoncent avoir repris plusieurs villages des mains des rebelles en territoire de Massissi, au nord Kivu, à la frontière avec la province voisine du sud Kivu, à Goma, héritier Baraka.
Ces avancées des FARDC ont été réalisées dans le cadre de l'opération dénommée Caterpillar des deux. Selon le colonel Guillaume Djike, cette action est planifiée par les commandants des opérations du Nord et du Sud Kivu.
Nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatali, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Soyez rassurés que, à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte. L'opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés.
Ce lundi, l'armée a pilonné avec un avion Sukhoi 25 les collines de Mufunzi et Nyaboro aux alentours d'Engungu, à plus d'une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Goma, dans les massifs, selon des sources locales et sécuritaires. Des combats violents opposant les deux parties ont aussi eu lieu dans un autre axe, dans le territoire de Lubero, selon l'armée. Depuis le début de l'année, des affrontements d'une grande intensité entre les M23 et les FARDC sont signalés au nord Kivu. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Et restons en République démocratique du Congo où la chaîne Al Jazeera est suspendue pour 90 jours. C'est ce qu'a annoncé le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Vendredi, les accréditations des équipes de la chaîne avaient été retirées. Les autorités congolaises reprochent à Al Jazeera la diffusion d'une interview de Bertrand Bissi. Six mois, l'un des responsables du groupe armé M23 qui sévit dans l'est du pays. Interview réalisée par Bojana Koulibaly, qualifiée par Kinshasa de militante à la solde du Rwanda. Fin de citation.
Moroni, 100.3 FM.
Aux Comores, l'opposition refuse de participer au second tour des législatives et au premier tour des communales. Après les premiers résultats provisoires publiés à Anjouan, l'opposition unie des Comores, qui est un groupement de formations politiques, annonce son retrait après avoir dénoncé de graves irrégularités. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement appelle au dialogue. Abdallah Zembaba.
Pour l'opposition unie des Comores, les preuves de fraude existent. Daoudou Abdallah Mohamed, leader du parti Orange et porte-parole de l'OIC, dénonce l'irrégularité du scrutin de dimanche.
Je ne pense pas qu'il y avait lieu de rester dans la course. Donc, nous avons décidé de nous retirer et de ne pas reconnaître ces résultats. Aujourd'hui, le président Azali a voulu faire en sorte qu'il est 100%. Mais ce que nous avons montré à l'opinion nationale et internationale, c'est que ce n'est pas un homme de parole. Ce n'est pas un homme qui respecte la démocratie, encore moins les Comoriens.
Mais cette décision de retrait met en lumière les divisions au sein de l'opposition, car d'autres partis, comme le Paris, préfèrent attendre les résultats définitifs pour décider de leur stratégie. De son côté, le pouvoir invite l'opposition, munie de ses preuves, à saisir les organes habilités pour dénoncer les fraudes. Romed Msedié, conseiller politique du président Azali Assoumani.
En ce qui concerne le fait de se retirer du processus électoral, cela, bien évidemment, n'est pas une bonne chose, mais en tout état de cause, nous continuerons le dialogue pour convaincre les uns et les autres. de continuer ensemble le processus électoral, en tenant compte, bien sûr, des revendications qui seront présentées par nos opposants.
En juin, les 15 sièges ont été remportés dès le premier tour par le parti au pouvoir. À Moéli, où l'opposition a boycotté le scrutin dans presque toutes les circonscriptions, le camp présidentiel devrait également rafler tous les sièges. Abdelham Zembaba Moroni, RFI.
Les propos d'Emmanuel Macron il y a une semaine continuent de susciter des réactions en Afrique. Le président français avait dénoncé l'ingratitude de certains pays envers la France. « Je crois qu'on oubliait de nous dire merci », avait-il dit en évoquant les interventions militaires françaises contre les djihadistes au Sahel. Et ce soir, c'est l'homme fort du Burkina Faso qui réagit. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de la junte, estime que le président français a insulté tous les Africains. Selon lui, l'annonce de la fermeture des bases françaises dans certains pays n'est qu'un leurre. Et le mieux, selon lui, serait de dénoncer les accords de coopération militaire et de faire partir même les coopérants militaires.
Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases, mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Il a parlé de politesse vis-à-vis de certains chefs d'État en leur donnant la primauté d'annoncer donc la rupture ou le départ des forces françaises. Ça nous importe peu, on peut dire. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos, là où il parlait d'ingratitude. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier.
Le chef de la junte burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de son discours prononcé lors de la cérémonie de montée des couleurs au palais présidentiel aujourd'hui. Maputo, ville morte au premier des trois jours d'une grève générale lancée par l'opposant mozambicain Venancio Mondlane. La contestation se poursuit alors que ce lundi, les députés ont été investis dans la nouvelle Assemblée nationale issue des élections générales controversées d'octobre dernier. Amira Souilem.
Sur la route de l'aéroport, des barricades ont été fabriquées avec des pierres, des pneus ou des déchets. Au loin, des tirs de gaz lacrymogène. Osvaldo est venu manifester.
On est en train de mourir et de perdre nos frères. Il y a déjà plus de 400 morts. Et on voit encore des jeunes ici qui battent le pavé pour que la vérité électorale ne soit pas oubliée. En vérité, l'indépendance du Mozambique commence aujourd'hui.
Un peu plus loin, le quartier de Benfica est comme désert. Céliziou est l'un des rares commerçants à avoir ouvert son échoppe. Il a peur des pillages. Son magasin a déjà été vandalisé deux fois depuis le début de la crise.
Ils sont entrés et ont tout volé. Je ne l'ai vu que le lendemain. C'était tout vide. Ça va mal, nos propres frères nous sabotent. Je voudrais que tout redevienne normal, mais Venancio a raison. Pour qu'il y ait du changement, il faut des sacrifices. Je le soutiens.
Dans le centre-ville, le quartier de l'Assemblée nationale est totalement bouclé par la police. Aucune voiture ne passe, sauf celle des députés. Alfonso n'en revient pas.
Ce n'est pas normal dans ce contexte de manifestation que les députés soient investis. Ils refusent de voir que le pays va mal, que le peuple est fatigué. Ils vont être investis pour faire quoi? Ils devraient être du côté du peuple, ils devraient ouvrir les yeux.
Dans son discours, Margarida Talapa, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, a promis un Parlement ouvert au dialogue et inclusif.
Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 23h40, ici à Paris. En Ouganda, le procès de Kizza Besigye, ancien général de l'armée et figure emblématique de l'opposition, a repris ce lundi devant une cour martiale de Kampala, accusé de détention illégale d'armes. Il doit en plus faire face à une autre accusation, celle de trahison, des accusations qui sont passibles de la peine de mort. La défense dénonce une cour militaire sous influence. Christina Okello.
Pour la défense de Kizza Besigye, ce procès est une question de vie ou de mort. car une condamnation exposerait l'opposant à la peine capitale. C'est pourquoi ses proches réclament depuis le début que l'affaire soit jugée devant une cour civile qu'ils jugent mieux équipée pour garantir un procès équitable. Mais cette demande a été rejetée aujourd'hui par la cour martiale qui a confirmé sa compétence pour traiter ce dossier à cause notamment du passé militaire de l'opposant. Autre coup dur pour la défense, l'ajout d'une nouvelle charge de trahison qu'ils avaient aurait cherché le soutien logistique à l'étranger pour déstabiliser l'Ouganda avec la complicité d'un troisième homme, désormais inculpé également dans ce dossier. Le dernier espoir de la défense repose désormais sur la contestation de la légalité de la cour martiale à juger des crimes supposément commis hors du territoire ougandais. Si le tribunal militaire confirme sa compétence demain, la défense prévoit de porter l'affaire devant la cour constitutionnelle. Selon la défense, ces accusations visent à affaiblir Kizza Besigye, perçu comme un rival politique de longue date du président Yoweri Museveni à l'approche des élections de 2026.
Christina Okello. Jusqu'où iront Alger et Paris? Le renvoi par l'Algérie jeudi d'un influenceur qui venait d'être expulsé de France pour des propos haineux avant même d'être jugé suscite des réactions très vives au sein du gouvernement français. Les relations entre la France et l'Algérie, on le sait, connaissent régulièrement des périodes de tension, mais ce renvoi vient remettre le feu aux poudres après l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal à la mi-novembre et accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Bonsoir David Baché.
Bonsoir Sylvie.
Depuis cet épisode, les deux pays multiplient les déclarations, mais depuis le renvoi de l'influenceur algérien, jeudi, ce sont surtout les membres du gouvernement français qui cherchent à se faire entendre.
Oui, et la dernière déclaration en date, c'est celle de Gérald Darmanin hier. L'actuel ministre de la Justice veut supprimer un accord de 2013 qui offre une exemption de visa à certaines personnalités liées au régime algérien. Ceux qui ont un passeport officiel, un passeport diplomatique algérien, il y en a des milliers, selon Gérald Darmanin, qui ajoute « cette humiliation qu'on veut nous faire subir n'est pas acceptable ». Des propos qui reprennent ceux de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui accusait dès jeudi Alger de chercher à humilier la France. « La France ne peut pas supporter cette situation », avait-il alors clamé. « La France doit évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition », je le cite. Le ministre des Affaires étrangères prévenait vendredi que la France n'aurait pas d'autre possibilité que de riposter si les Algériens continuent cette posture d'escalade. Parmi les leviers cités par Jean-Noël Barrot, les visas, l'aide au développement ou d'autres sujets de coopération. Enfin, certains politiques, comme l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, demandent l'abrogation d'un traité datant de 1968 sur l'installation et le travail des Algériens en France. Réponse samedi du ministère algérien des Affaires étrangères. L'Algérie n'est d'aucune façon engagée dans une logique d'escalade, de surenchère ou d'humiliation. L'extrême droite revancharde et haineuse, ainsi que ses héros patentés au sein du gouvernement français, poursuit le communiqué officiel, mènent une campagne de désinformation, voire de mystification contre l'Algérie.
Merci David. Alors on va écouter à présent notre invité pour analyser ces déclarations, comprendre leur portée. Il s'agit d'Adlène Mohamedi. Il est chercheur et enseignant en géopolitique. Il était l'invité de Nicolas Sûr.
Ces derniers temps, bien sûr, on savait que la rhétorique anti-française en Algérie était utilisée à des fins en grande partie de politique intérieure, parce que le but, c'était quand même de relégitimer le pouvoir algérien, et c'est un classique. Ce qui est nouveau, c'est qu'en France, maintenant, on fait ça de façon presque décomplexée aussi. C'est-à-dire qu'on utilise la relation franco-algérienne à des fins de politique intérieure de façon tout à fait décomplexée, parce qu'on a un contexte politique français aussi particulier. Et quand je parle d'utilisation de la relation franco-algérienne à des fins de politique intérieure, je parle évidemment d'une volonté de séduire un électorat en particulier. Et par un discours anti-algérien, on vise forcément effectivement les électorats de droite et d'extrême droite. On donne l'impression que la relation franco-algérienne, de façon générale, est sacrifiable en fait. Et c'est toute la nouveauté aujourd'hui.
Il y a un point qui revient sur le devant dans cette nouvelle crise, c'est celui de l'accord de 1968 sur la circulation et l'installation des ressortissants algériens en France. Des voix s'élèvent dans la classe politique pour demander son abrogation. Mais qu'y a-t-il vraiment dans cet accord?
L'accord de 68, c'était à une époque où il y avait un besoin de main-d'œuvre algérienne en France. Et l'idée à l'époque, c'était de faciliter l'installation d'Algériens en France, de faciliter notamment l'installation de la main-d'œuvre dont on avait besoin. Le problème, c'est qu'avec le temps, le droit commun des étrangers en général en France est devenu beaucoup plus favorable, en fait, que l'accord de 68 pour les Algériens. Les Algériens en 68 avaient un statut particulier, parce que l'Algérie n'était indépendante que depuis peu de temps. et aussi parce qu'on était dans un contexte où il y avait besoin économique de la main-d'œuvre algérienne, et aussi parce qu'il n'y avait pas de régime des visas à l'époque. Puis avec le temps, le régime des visas a été installé petit à petit, notamment dans les années 80, puis le droit commun des étrangers a évolué parfois de façon beaucoup plus positive que cet accord de 68. Et aujourd'hui, on se retrouve en fait avec des Algériens qui subissent la plupart du temps l'accord de 68. C'est qu'on est persuadé, en fait, on veut les vendre à l'opinion publique française comme des espèces de privilégiés. Mais dans les faits, un étudiant algérien en France est dans une situation beaucoup moins confortable qu'un étudiant marocain ou mexicain, parce qu'il n'a pas le droit, par exemple, à une carte de séjour pluriannuelle, parce qu'elle n'est pas prévue dans l'accord de 68. Et donc, il ne reste en fait que très peu d'Algériens qui bénéficient officiellement de l'accord de 68, c'est-à-dire les commerçants, les artisans qui peuvent avoir peut-être leur micro-entreprise plus facilement, enfin vraiment des détails par rapport au gros des immigrés en France. L'idée, en fait, c'est de dire aux Français, vous voyez, on a chouchouté les Algériens, maintenant, on va arrêter de le faire parce qu'il y aurait une espèce d'attente, mais c'est une attente, en fait, qu'on retrouve surtout à droite et à l'extrême droite, une attente en ce sens.
Le chercheur Adlène Mohamedi. Le Kenya, de nouveau pointé du doigt après qu'une célèbre militante tanzanienne des droits humains, Maria Sarungi Tseai, a été enlevée dimanche à Nairobi avant d'être libérée quelques heures plus tard sous la pression de plusieurs ONG. Ce rapt a eu lieu à Nairobi, donc en plein jour, mais la militante soupçonne des agents de sécurité tanzaniens d'être derrière cette affaire.
Vu à la vitesse à laquelle nous roulions et les routes empruntées, d'abord goudronnées avec des bosses, puis plus cabossées, puis de nouveau une voie rapide, j'ai compris qu'ils cherchaient à m'emmener de l'autre côté de la frontière, côté Tanzanie. Peut-être qu'une autre équipe attendait de l'autre côté, car ils n'arrêtaient pas de sortir de la voiture. Et quand j'ai demandé qui nous attendions, l'un d'entre eux m'a répondu qu'ils attendaient leur chef. J'ai dit « Ah, vous avez un chef ? Et qui est-ce ?» Et ils se sont énervés en réalisant qu'ils m'avaient donné des informations. L'autre raison pour laquelle je suis convaincue que les Tanzaniens sont impliqués est que mes ravisseurs voulaient absolument récupérer mon téléphone. Or, je ne vois pas pourquoi le gouvernement kényan voudrait m'enlever et m'emmener sur les routes uniquement pour avoir accès à mon téléphone. Il y a d'autres moyens. Je pense que les informations que je partage au sujet des autorités tanzaniennes leur provoquent des nuits blanches et que c'est la raison de mon enlèvement. Je crains qu'à l'approche de 2025, il y ait de plus en plus de menaces en Tanzanie et en dehors.
Des propos recueillis par Florence Maurice. Qui est cette Autrichienne septuagénaire enlevée samedi soir chez elle à Agadez dans le nord du Niger où elle habite depuis plus de 30 ans? Le ministère autrichien des Affaires étrangères a confirmé hier le rapt d'Eva Gretzmacher, c'est son nom. Cet enlèvement n'a pas été revendiqué. Des recherches sont toujours en cours. Et à Agadez, l'émotion est vive, comme en témoigne Ibrahim Manzo Diallo. Il est directeur de publication du journal Aïr Info Agadez. Il répond à Magali Lagrange.
Tous ceux qui sont à Agadez connaissent Eva l'Autrichienne. Ça fait presque une trentaine d'années qu'Eva vit avec nous ici à Agadez. Vous savez, Eva a toujours soutenu les ONG locales, surtout les petites ONG locales qui œuvrent dans le maraîchage. Et elle a l'habitude de dispenser des formations en couture aux jeunes femmes issues des milieux défavorisés, de promouvoir de la musique pour les jeunes. Et en collaboration avec d'autres écoles locales, elle organise des cours de loisirs, elle proposait des cours d'informatique, des cours de langue. Elle a l'habitude d'organiser des concerts, des projections de films en plein air, ainsi que des soirées culturelles. Pour nous, c'est une sœur d'Agadez qui a été enlevée. Et franchement, nous prions Dieu de la ramener saine et sauve chez elle. C'est vraiment très dur pour la population d'Agadez. Vraiment, ça fait mal.
Voilà, et puis le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda, dément être lié à l'enlèvement de cette Autrichienne Eva Gretzmacher. La prise d'otage est une importante source de financement pour Al-Qaïda au Sahel. Mais dans un communiqué publié ce lundi, les djihadistes assurent ne pas être à l'origine de cet acte. En bref, la Sierra Leone déclare l'urgence sanitaire contre le Mpox, également appelé variole du singe. La Sierra Leone a déclaré en fin de semaine passée son premier cas confirmé depuis le déclenchement en 2024 du plus haut niveau d'alerte mondiale. Un second cas a depuis été détecté et confirmé le 6 janvier et la surveillance aux frontières du pays va être renforcée. Le football au Nigeria avec la présentation officielle ce lundi à Lagos du nouveau sélectionneur des Super Eagles, le franco-malien Eric Chell, l'ancien technicien du Mali, puis du club algérien du Mouloudia d'Oran la saison dernière. en a profité pour répondre à ceux qui trouvent qu'il manque un peu d'expérience pour une sélection aussi huppée en Afrique que celle des Super Eagles. Eric Schell se sent prêt. Un point c'est tout, a-t-il confirmé à notre correspondant Bright Abiola.
Moi j'ai arrêté ma carrière en 2014 et j'entraîne depuis 2014. J'ai entraîné une équipe, on va dire, d'Afrique de l'Ouest il n'y a pas longtemps. J'ai entraîné une équipe en Algérie. Donc le football africain, je commence à bien le connaître. Moi, je me sens prêt. Je me sens prêt pour diriger cette grande équipe. C'est vraiment une grande équipe. Il y a des grands joueurs. Donc non, moi, je m'inscris dans le processus de progression. Ils vont m'aider à progresser. Je vais les aider aussi à progresser. Parce que j'ai une vision du football qui, je pense, va très, très bien coller avec cette équipe. Donc non, je me sens prêt. Et encore une fois, hâte de travailler.
On va passer au tennis avec l'Open d'Australie de Melbourne, premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Onze Jabeur, la Tunisienne, entre en lice ce mardi. Elle sera opposée à l'Ukrainienne Kalinina. Onze Jabeur qui revient de loin puisque son année 2024 a été marquée par une série de blessures. Elle a chuté au classement. Elle occupe actuellement la 39e place mondiale. Elle qui a été numéro 2 et deux fois finaliste à Wimbledon. À 30 ans, la Tunisienne n'a pas dit son dernier mot. Reportage Arthur Franck.
C'est une Onze Jabeur souriante qui s'est présentée sur la terrasse de Melbourne Park. La Tunisienne veut pourtant oublier des mois de souffrance. Une gêne persistante à l'épaule l'a contrainte à ranger la raquette en septembre. En 2024, son corps a dit stop.
Il y avait beaucoup de choses en même temps. Il y avait des douleurs, j'arrivais pas vraiment à frapper ni service ni coup droit. Côté force, j'avais plus de force forcément avec les douleurs. Et du coup, à un certain moment, je me dis, mais ça sert absolument rien de jouer comme ça tant que je suis même pas proche de jouer à 10% ou 20%. Donc c'était vraiment très très bas.
L'ancien numéro 2 mondial a repris le jeu début janvier. Un bon choix avec 4 matchs gagnés et un quart de finale à Brisbane. Durant l'intersaison, elle s'est posé beaucoup de questions et a tenté de solidifier la machine.
Oui, beaucoup de travail physique, beaucoup de rééducation pour laisser le corps revenir au niveau où j'étais un peu, parce que rester quelques mois sans vraiment faire grand-chose était un peu dur.
Double finaliste à Wimbledon, la dernière fois en 2023, Onze Jabeur n'a pas perdu cette flamme qui l'habite, remporter un grand chelem. Mais elle doit faire les choses dans l'ordre. Arthur Franck, Melbourne, RFI.
Afrique Echo nous emmène à l'île Maurice où le tramway opérationnel depuis 2020 est devenu un gouffre financier baptisé Métro Express. Ce nouveau mode de transport en commun est destiné à désengorger le trafic entre les villes, mais il accuse un déficit annuel de 300 millions de roupies, autrement dit l'équivalent de 6 millions d'euros. Et le nouveau gouvernement mauricien, qui est en poste depuis novembre, réclame des comptes. Il veut stopper l'hémorragie financière d'un projet qui plombe lourdement les finances publiques. Afrique Echo, signé à Port-Louis, Abdullah et Rali.
Présenté comme l'un des plus grands chantiers jamais entrepris à Maurice, Metro Express est devenu, selon le nouveau gouvernement installé en novembre, un gouffre financier insoutenable. Dans une déclaration à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a placé le réseau ferroviaire en tête des sociétés étatiques déficitaires. Pour Navin Ramgoulam, l'entreprise est désormais insolvable.
Metro Express est incapable de rembourser sa dette, un emprunt de 16 milliards de roupies contracté auprès de l'Inde.
Opérationnel depuis 4 ans, Metro Express relie les 5 villes de Maurice sur 30 km. Ses 18 rames desservent 21 stations de Port-Louis à Cueppip. Environ 45 000 voyageurs, soit un tiers des usagers urbains, utilisent quotidiennement ce mode de transport. Cependant, sa rentabilité pose un sérieux problème, déplore le ministre des Transports, Osman Mahomed.
Les coûts d'opération sont largement supérieurs aux revenus de la compagnie. Je travaille sur un plan pour assainir le lourd impact du Metro Express Limited sur les finances publiques.
Mais est-ce que la rentabilité est indispensable pour une entreprise publique de cette nature?
On ne peut pas ad infinitum faire de sorte que la compagnie soit financée par les fonds publics.
Metro Express dessert les zones les plus stratégiques du territoire, notamment les 5 villes du pays, le technopôle d'Ébène et la cité universitaire de Réduit. Selon Mohini Natou, directrice générale au ministère des Transports, un compromis doit être trouvé.
Le nouveau mode de transport a fidélisé de nombreux voyageurs à l'île Maurice, notamment les voyageurs urbains. Maintenant, il faudra bien continuer à offrir le même service à ces 45 000 voyageurs tous les jours, sans que cela impacte davantage les coûts Et au niveau de MEL, nous mobilisons nos ressources pour voir comment arriver à rentabiliser le métro express afin de moins peser sur le budget national. C'est important.
Afin de rationaliser le service, le gouvernement envisage une augmentation du prix du ticket, une révision des conditions de gratuité pour les seniors et les étudiants, ainsi qu'un report des prochains développements. Quant aux anciens administrateurs de Métro Express, ils défendent un projet stratégique avec des bénéfices économiques et sociaux à long terme. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Et c'est le moment de faire un petit tour d'horizon de l'actualité musicale en compagnie ce soir de Franck Baudin de la rédaction web d'RFI. Bonsoir Franck.
Bonsoir Sylvie et bonsoir à tous.
Et on va commencer cette sélection par un duo d'artistes originaires de Tunisie. Il vient de sortir un disque la semaine dernière.
Alors ce sont deux artistes tunisiens mais qui se produisent depuis Bruxelles. On connaissait déjà Jawar, ce chanteur qui se réclame de la tradition musicale shaabi, c'est-à-dire populaire. Depuis plus de 20 ans, l'auteur-compositeur développe son univers folk au fil des albums. Il fait la rencontre de Haza en 2020 lors d'un festival parisien. La chanteuse, qui vient d'un univers plutôt rock psychédélique, pose sa voix délicate sur les mélodies et les paroles de Jawar. Ça donne cet album doux et intimiste, Riout, dont on entend un extrait en ce moment. للعود اللي رميت وخيوطي مشت معا.
Riout du chanteur tunisien Jawar accompagné de Haza, interview signée Marjorie Bertin et c'est à retrouver sur le site d'RFI. Une touche de douceur avant de rentrer dans l'univers du hip-hop.
Alors oui Sylvie, on passe du hip-hop mais on reste au Maghreb, direction le Maroc cette fois-ci, où notre correspondant Mathias Reynal nous a dressé le portrait d'un des rappeurs les plus en vue du royaume. Il s'appelle Bocal, il a 24 ans, la coupe au bol et des tatouages un peu partout. Après une année de pause et de remise en question, le gamin de Casablanca revient avec un EP qui s'appelle Dracula, un mini-album de 7 titres qui a du mordant et qui s'adresse à ses détracteurs. On écoute le titre Moon. واخا عايشين لاباس حيتشوف الفلكة باش مشاكل كيف الموج راه كنشوفو غالمور كيس بوبروشي فمول
Moon du rappeur marocain Bocal. On continue Franck, cette sélection est toujours dans le rap. Hein.
Alors plus précisément du rap ivoire Sylvie et qui nous vient
de Côte d'Ivoire.
Exactement, comme son nom l'indique, c'est notre correspondant à Abidjan, Benoît Almeras, qui nous a ramené cette pépite dans son sac. C'est Le Sky qui lui aussi bouscule les codes du hip-hop. À 22 ans seulement, avec son humour, sa vulgarité et son style en marge, il séduit les nouvelles générations. Sous ses airs de feignant, ce natif de Yamoussoukro s'est formé tout seul à la production musicale. Il vient d'annoncer un nouvel album, Le Vrai Cabri 2, à venir la semaine prochaine. Je vous propose d'écouter son dernier single, Tchekoumoulé, avec le rappeur nigériano-ivoirien Fjord Björk.
Position, Tchekoumoulé, enveloppé, Kassamoulé. Petit haut vent sans cul au piment. Il est vu devant bâtiment. Il me dit, pourquoi tu mens? Wow, wow, pourquoi tu mens? Nous suis la bobo petit brigand. On a l'allée casser sa tête, j'étais les gants. Wow, beau dans le banc. Wow, wow, même beau dans le banc. De temps en temps, on s'en met les bancs. De temps en temps, on s'en met les bancs. Wow, beau dans le banc. Wow, wow, même beau dans le banc. Prends position, Tchekoumoulé.
Tchekoumoulé du rappeur ivoirien Le Sky avec Fjord de Björk. Merci Franck Baudin pour cette belle découverte. Retrouvez tous nos contenus musicaux sur l'adresse suivante rfi.fr/musique. Et c'est la fin de cette dernière édition d'Afrique Soir. Merci à vous pour votre fidélité.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain, Recherche d'emploi, des spécialistes répondent à toutes vos questions si vous êtes jeune diplômé.
Mercredi.
Comment l'intelligence artificielle transforme l'enseignement et l'apprentissage.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.